Le Chat Noir Productions vous présente, de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, aux éditions Flammarion, Electrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Electrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, narrant toute l'histoire de la techno-music, racontée et vécue par Laurent Garnier, des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance.
Electrochoc est de retour en ce mois d'octobre 2007. Souvenez-vous, dans la 9e émission, Laurent Garnier était à Détroit. On le retrouve dès maintenant en compagnie de Kenny Larkin et tout le crew d'Underground Resistance en plein cœur de Détroit Downtown. Electrochoc 10e, ça se passe à Détroit et c'est maintenant.
Le taxi me dépose devant une maison de Birmingham, banlieue blanche où vit Kenny Larkin. Kenny était considéré à Détroit comme l'enfant gâté de la techno. Comédien, il avait trempé dans la musique par hasard, avait été inspiré par la musique de Derrick May, avait signé 3 albums dont Azimut et Métaphore, et suite à leur succès planétaire, avait gagné pas mal d'argent. Pour toutes ces raisons, Kenny était critiqué à Détroit. Mais problème pour ses détracteurs, sa musique est excellente. Après des retrouvailles chaleureuses, Kenny m'annonce qu'un dîner est organisé au Fishbones, un restaurant situé dans le quartier de Greektown, où plusieurs personnes m'attendent. Puis, sur le pas de la porte, il me dit « Prends tes disques.
Bah, »« Pourquoi ?»«
T'occupe, prends tes disques. » J'installe mon sac dans le coffre de sa voiture, grimpe et me laisse conduire, direction les arcanes lumineuses des hôtels de Greektown. Nous pénétrons dans un restaurant au mur recouvert de photos de joueurs de baseball et de lithographies de modèles historiques sortis des usines Ford. Au fond de la salle, autour d'une table ronde, sont assis tous les ténors de la techno de Détroit. Je m'approche, Kenny me présente, et là je comprends que ce genre de dîner réunissant les acteurs de la scène du Detroit techno est exceptionnel, voire sans précédent. En 93, il était encore rare qu'un Européen vienne s'intéresser à Détroit. Autour de la table du Fishbones se trouvent entre autres Derrick May, Mike Banks, Kelly Hand, l'une des seules productrices techno de Détroit, et Maurizio, musicien berlinois ayant investi ici dans une usine de pressage de vinyle. Chaleureux, ils m'épargnent la distance qu'ils entretiennent généralement avec les Blancs. Je ne viens pas ici quémander quoi que ce soit et ils le savent. Acid Eiffel, licencié par Fragile et Transmat, a été l'un des rares disques de collaboration entre Detroit et l'Europe. Et Kevin, Mike et Derrick sont tous venus au Rex. Ils me connaissent, ils savent que ma démarche est sincère. Je discute avec Mike Banks qui me propose une balade le lendemain matin sur un ton énigmatique. I got something to show you. L'ambiance est détendue, ça parle musique bien sûr, les vannes fusent, les absents en prennent pour leur grade, puis la conversation se focalise sur l'actu baseball et je me retrouve complètement largué. Le restaurant se vide de ses clients, je note qu'aucun de ceux qui passent devant notre table ne reconnaît ces demi-dieux se crêpant le chignon autour du meilleur lanceur de telle ou telle équipe foireuse. Tandis que chacun se lève de table, s'en mitouflant dans de lourds manteaux d'hiver, on me demande « T'as emmené des disques avec toi ?» Je réponds « Oui, intimidé. » On monte dans la voiture de Kenny et j'apprends qu'une fête se tient dans le réfectoire d'une école. Il n'y a pratiquement aucun club ni structure où organiser des fêtes techno à Détroit. Mais un sens du système D bien développé malgré le risque certain de voir débarquer les flics du DPD ou les gangs du coin. Ces fêtes techno réunissant rarement plus de 200 personnes dont une forte proportion vient des quartiers blancs au-delà de 8 Mile. Je rencontre DJ Bone dans le dédale des couloirs de cette école primaire. Il me propose de jouer avec lui dans une salle de classe délestée de ses tables et chaises. Le public, exclusivement black, est là pour danser et écouter de la musique sans lumière, à peine éclairée par les néons blafards du dehors. Bref, on est à des allées-lumière du snob parisien qui disserte sur Détroit. Bone joue quelques minutes puis me propose de le relayer. Je déballe mes disques, à fond la caisse, commence mon mix, travaille le public au corps, sans des regards sceptiques se poser sur moi. Puis l'ambiance se détend, les mamas se mettent à danser avec des mouvements de plus en plus larges. Mike est dans un coin de la pièce et observe. Je sens qu'on touche au but. La salle s'emballe. J'enchaîne un titre de Saint-Germain et Losing Control de DBX. Les mamas se mettent à gueuler. Cette première soirée à Détroit, j'en rêvais depuis des années. J'aurais tout donné pour une opportunité comme celle-là. Et voilà que ça prend. C'est comme dans un rêve. D'ailleurs, j'ai l'impression de rêver. Quand tout à coup, un type se plante devant moi. No more music here. Bone reste derrière moi sans bouger. Mike s'approche doucement. Je demande pourquoi et n'obtient rien d'autre qu'un grommellement. Stop the music. On me dit que la police a fait irruption, que la fête est finie. Le public déserte la salle, sans faire de scandale, visiblement habitué aux pratiques castratrices du DPD. Kenny m'accompagne jusqu'à la sortie, me propose de me ramener à mon hôtel lorsque je perçois un grondement de basse venant d'une autre salle occupée par le DJ canadien Richie Hawtin, à l'autre extrémité du long couloir. Je m'approche et découvre une pièce saturée d'une clientèle blanche, visiblement ignorante d'une quelconque interdiction policière. Le DPD aurait-il fait fermer une salle sur deux ? Je n'en saurais pas plus. Je prends mes caisses de disques, salue Bone, rejoins Kenny qui m'attend dans le hall, et retourne à l'hôtel. You don't mix this with that. And you will say, watch me. Watch me. There will be people who will say, play it safe. That's too risky. And you will take that chance and have no fear. No fear. You won't let these questions restrain or trouble you. You will point yourself in the direction of your dreams. You will find the strength in the sound and make your transition. Make your transition.
I got the transition.
Make your transition.
I got the transition.
Make your transition.
I got the transition. No dejas estas preguntas preocuparte. Nomás púntate en la dirección de tus sueños. Encuentra fuerza en el sonido y haga tu transición. haga tu transición. Haga tu transición. Haga tu transición.
You don't mix this with that. And you will say, watch me.
Watch me.
There will be people who will say, play it safe. That's too risky.
Le lendemain, Mike Banks me donne rendez-vous au Motown Historical Museum, 2648 West Grand Boulevard. Mike m'attend devant le musée assis sur le capot de sa vieille bagnole. Il ne pose aucune question sur l'incident de la veille, m'accompagne jusqu'au seuil du building et marmonne. Faut que tu comprennes où tu te trouves. On entre dans Hitsville, la maison ouverte par Berry Gordy en 1959. Mike paye mon entrée. Je t'attends dehors. Au premier pas, on peut déjà sentir les fantômes de la splendeur passée. Ici, on parle bas, comme dans une église. Je croise des photos de Marvin Gaye, des Supremes, Stevie Wonder. Je pénètre dans le studio d'enregistrement préservé jusque dans les moindres détails de son mobilier. C'est là que Smokey Robinson, Gladys Knight, The Temptations et Norman Whitfield ont enregistré certaines des plus belles pièces de la musique noire américaine. Un studio jadis ouvert 24 heures sur 24, qui ne mit fin à son rythme infernal de production qu'en 1972, lorsque Berry Gordy, le maître des lieux, déménagea sa créature à Los Angeles. Je suis dans un couloir tapissé de disques d'or, tombe sur une salle de projection, je m'assieds au hasard. Comme une partition parfaitement orchestrée, la projection d'un film sur l'histoire de Motown commence. Les images défilent, commentées par une voix off respectueuse. Les scènes sont parfois muettes, parfois saturées de musique. Tout ici ne parle que de fierté, d'ambition et d'autonomie. Ces images racontent l'idéal de la culture noire américaine que véhiculait Motown. Je m'enfonce dans mon siège et lentement comprends le sens de cette visite, tenter de saisir l'âme de Détroit à travers les souvenirs de sa plus belle création. Je comprends que l'esprit de Young America est toujours vivant, que malgré les coups, il ne s'éteint pas et qu'on retrouve sa trace 40 ans plus tard dans le travail entrepris par Mike Banks via You Are. Motown, c'était, comme You Are aujourd'hui, un réseau de distribution de disques assurant l'indépendance du label face aux majors, un studio d'enregistrement par lequel passaient tous les musiciens du label, garantissant un son spécifique, une écurie d'artistes accomplis partageant la même philosophie et un patron visionnaire qui réinjectait ses bénéfices dans son label et dans sa ville. À travers Underground Resistance, Mike Banks perpétue ce travail de mémoire. Mais You Are n'a pas calqué sa façon de fonctionner sur celle de Motown. Elle s'inspire, certes, mais adapte les dessins de Berry Gordy à la réalité d'un Détroit désenchanté. C'est comme un fil qui court à travers les années pour communiquer la même urgence. Il suffit de se plonger dans le travail de You Are, de le voir évoluer d'une house vocale à une techno pure et dure pour constater qu'il est toujours question du même moteur. L'âme et la colère. We'll be right back. Il n'y a qu'à humer le parfum des rues ici pour constater que l'époque dorée de Berry Gordy s'est évanouie. Depuis, ces artistes, garants de son âme, ont massivement quitté ses murs. La ville fait l'expérience de la nuit. De ce drame, Mike Banks a puisé une énergie, et à travers sa musique, il tente de ranimer l'espoir. C'est Mike Banks qui parle. Pour la génération de mes parents, Berry Gordy était un symbole d'espoir. Le musée Motown représente ça pour moi. Quand on y entre, on constate que la lutte que nous menons actuellement est la même que dans les années 60. Mais Gordy a vaincu sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Ça aussi, c'est une inspiration pour moi. Chez Submerge, on a des imprimantes, des ordinateurs, des fax. Avec tout ça, on devrait pouvoir faire quelque chose. Quand je vois dans quelles conditions travaillaient les musiciens de Motown, les moyens qu'ils avaient et la façon dont ils ont marqué le monde, je trouve ça incroyable. Berry Gordy voulait conquérir la planète avec la musique de Motown à une époque où les Noirs en étaient encore à lutter pour leurs droits. Il était une fierté pour toute la communauté. Mais dans son système, les musiciens n'étaient pas mis en avant et en souffraient. Ce qui s'est produit pour eux ne nous arrivera pas, parce que moi, je suis aussi assis entre deux chaises, celle du chef d'entreprise et celle du musicien. Berry Gordy était un excellent businessman et je sais ce qu'il devait affronter. Comme quand il devait par exemple donner à la mère d'un artiste qui se droguait l'argent qu'il avait gagné. La face sombre de la réussite aussi, je sais ce que c'est. Lorsque tu réussis dans cette ville, tu as 3000 types au chômage qui te courent après et qui veulent monter dans ton bateau. Mais c'est impossible. J'entends des gens s'énerver contre Kevin Sanderson disant « Kevin s'est vendu, il est parti vivre dans les banlieues blanches de Détroit ». Mais il n'avait pas le choix. Il ne savait pas dire non. Dès qu'un type venait lui demander $500 parce que ses gosses n'avaient rien à manger ou qu'il était en galère, Kevin lui donnait l'argent. S'il n'était pas parti, il ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille aujourd'hui. Berry Gordy vivait avec une pression constante et le même genre de dilemme. Il a décidé de partir à Hollywood en 1972. Il voulait produire des films, mais je suis sûr que la pression engendrée pour tous ces gens qui en voulaient à l'argent gagné par Motown l'a aidé à prendre cette décision. Je le sais parce que nous vivons la même pression. D'autres raisons ont poussé Gordy à quitter Détroit. Les artistes de Motown étaient devenus des stars et il voulait tout simplement une vie meilleure dans une ville plus sympa où il fait beau. Jusqu'à la fin des années 60, Gordy pouvait encore encadrer ses artistes en les manageant à la dure, mais certains d'entre eux sont devenus très célèbres, trop célèbres. Ils ont commencé à se dissiper, à parler de partir en Californie contre son avis. Il ne pouvait pas supporter l'idée de les voir s'éloigner de lui. Alors, il est parti s'installer en Californie pour produire ses films et garder un contrôle sur ses artistes. J'ai encore un article sur lui qui m'a beaucoup marqué, où il dit que la pire erreur qu'il ait faite était de partir en Californie parce que ça a changé le son de Motown. Ça a modifié l'âme de la musique. Le son, l'urgence et la lutte n'étaient plus les mêmes. Peut-être que s'ils étaient partis à Compton, Inglewood ou n'importe quel autre bled, ça aurait été différent. Mais ces cons, ils sont partis à Beverly Hills ou un coin dans le genre. Et là, ils ont perdu le truc. La magie s'est évanouie. Ce n'est pas que je sois attaché à Détroit comme une moule à son rocher, mais lorsque tu rentres dans l'immeuble de Motown, tu peux sentir que l'esprit des musiciens est toujours là. Il y a des lieux à Détroit où tu peux sentir cette vibration. Je me sens comme faisant partie de cette ville. Je dis souvent à mes gars que chez certains artistes, on peut sentir les changements dans leur musique en écoutant leur catalogue de bout en bout. Au début, ils sont à Détroit, ils travaillent leurs morceaux et ils ont un vrai son. Puis ils voyagent, passent à autre chose, ils travaillent moins ici, ils traitent avec des gens qui pensent que parce qu'ils sont de Détroit, ils sont forcément quelqu'un dans la techno, que tout ce qu'ils font est génial. C'est là que ça devient de la merde. Et un jour, ils repassent par ici et ils se rendent compte qu'ils ont perdu quelque chose en route. Quelque chose de magique nous a touchés et inspirés. Mais je ne dis pas que tout est le fait de notre environnement, d'autres facteurs influencent notre musique. Dans mon cas, un des facteurs importants, c'est sauver son cul. Certains des meilleurs producteurs que je connais étaient des mecs super pauvres. Leur inspiration est venue parce qu'ils avaient besoin de fric. On m'a dit que je pouvais gagner de l'argent en faisant de la musique. Alors, écoute ce que j'ai fait. We'll be right back. Mike Banks a investi tous les bénéfices engendrés par You Are dans la communauté, associations de quartier, crèches, etc., et dans la construction des locaux du label. La construction de l'immeuble de Submerge a vraiment été une expérience enrichissante. Les gens dont je pensais qu'ils seraient à mes côtés durant les travaux n'étaient pas là. Ceux qui m'ont entouré et soutenu étaient des cousins et quelques amis, dont beaucoup se droguent. Avant cette expérience, je trouvais qu'ils se gâchaient, ça me foutait les boules. Puis un jour, je me suis retrouvé débordé par les travaux, je n'avais plus d'argent pour finir l'immeuble. Je leur ai dit, écoutez les gars, voilà, c'est fini. On peut plus continuer, j'ai plus un rond. Mon cousin Cliff m'a répondu, tu penses qu'on est là pour l'argent, pour ce que tu nous payes? Nous, ce qu'on veut, c'est voir cet immeuble fini. Ça m'a bouleversé, parce qu'à côté de ce qu'ils avaient traversé à cause de la drogue, mon problème, c'était que dalle. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas juger les gens. L'immeuble de Submerge est un hommage à toutes les personnes qui ont acheté nos disques. Chaque cent que nous avons gagné y est investi. Je veux pouvoir transmettre ce que j'ai aux gens autour de moi, à mes enfants et aux enfants de mes amis. Je veux qu'ils puissent venir travailler ici s'ils en ont envie au lieu d'aller bosser à l'usine comme des robots. Chez Submerge, tout le monde peut avoir un rôle, une légitimité. Apprendre et transmettre. Dire, mon père a bossé ici il y a 30 ans, petit con, et tu dois emballer un disque comme ça, comme mon père m'a montré. Travailler pour Underground Resistance et Submerge, c'est intégrer une entreprise familiale.
Where?
Depuis 1992, le quotidien de Détroit n'a cessé de se durcir. Le microcosme techno est gangréné par les rivalités, querelles, jalousies. Les artistes majeurs ont déserté la ville pour fondre sur l'Europe. Les rares soirées techno encore organisées downtown sont invariablement cassées par la police de Détroit. Pendant que Mike Banks et Underground Resistance continuaient leur lutte de Détroit, Jeff Mills parcourait le monde. En 1993, les artistes et labels américains prirent conscience de l'ampleur du phénomène house et techno en Europe. Pressés de quitter les murs de leur ville, certains producteurs et DJ cédèrent aux sirènes de l'argent facile et au plaisir de l'adulation. Une scène DJ américaine se développa, répondant à la demande de l'Europe qui n'avait Dieu que pour Détroit, New York et Chicago. Alors que les plus célèbres DJ américains ne pouvaient espérer des cachets de plus de $500 par soir dans leur propre pays, en Europe, certains DJ new-yorkais demandaient entre 15 et 20 000 dollars pour un set DJ de 3 heures en Angleterre. S'engouffrant dans la brèche, les DJ américains exigèrent des sommes indécentes. Les promoteurs et clubs européens acceptèrent leurs caprices. Et le phénomène mondial s'étendit au sein des saints, Détroit. L'étiquette Detroit devint alors une valeur soumise à toutes les spéculations. Pour la plupart des artistes, la musique servait à sortir d'un quotidien difficile. D'argent facile et de célébrité, il n'avait jamais été question. Lorsqu'en 1993, Berlin invita l'essentiel des DJ de Détroit pour la Love Parade, tous comprirent qu'ils tenaient là la poule aux œufs d'or, qu'ils allaient pouvoir signer des disques bâclés sur des labels qui ne désiraient qu'inscrire l'étiquette Detroit à leur catalogue, s'éclater et se taper des blondes. C'était inévitable, plusieurs d'entre eux pétèrent les plombs. Durant trop longtemps, une frange d'artistes américains a refourgué, sans oublier de se faire grassement payer, ses moins bonnes productions au label européen. Aucun label européen n'a refusé un titre d'un artiste de Détroit, même lorsque la musique en question était médiocre. Tout le monde profitait de la situation. Total, 80% des morceaux signés par des artistes de Détroit en Europe ne sont ni faits ni affaires. L'Europe adule Détroit, mais c'est une relation sans amour. C'est Mike Banks qui parle. Je réalise que notre communauté n'a aucune tradition dans la gestion de l'argent. Certains d'entre nous ont disjoncté lorsqu'ils en ont eu subitement, parce qu'ils pensaient que ça ne durerait pas et qu'il fallait en profiter. Je peux comprendre ça. À Détroit, si tu ne sors jamais de chez toi, tu as une idée totalement déformée du monde. Le journal télévisé ne fait qu'énumérer les dérapages, genre « quelqu'un a été tué à tel ou tel endroit », ou répéter aux gens des banlieues blanches qu'ils ont bien raison de vivre en dehors de downtown, parce que sinon, ils finiraient avec un gun sur la tempe. On nous vend ça ou des histoires de citoyens modèles qui distribuent la soupe aux pauvres. C'est une ville divisée jusque dans sa manière de relater un événement. Les informations télévisées ne donnent qu'une vision partielle de l'actualité. Je pense que ceux qui créent de la musique techno essayent de s'échapper de ça. Mais j'ai déjà évoqué l'influence que la ville a sur nous. Lorsqu'on tente de lui échapper, on l'amène malgré tout avec nous. Underground Résistance continue à œuvrer pour la musique, fidèle à son éthique, tournée vers la rue et le futur, explorant la possibilité d'autres mondes, disque après disque. Jeff Mills le dit volontiers, le thème de l'espace, omniprésent dans la musique noire, de Sun Ra à Funkadelic, de Coltrane à la techno, a toujours été empreint du même désir. C'est Jeff Mills qui parle. Pour nous, ça représente la liberté, hors d'ici, hors de ce monde. L'espace, l'inconnu, ça peut être n'importe quoi. Même si c'est pire qu'ici, ce n'est pas ici. L'espace, c'est la frontière finale, the final frontier. Nous avons 50% de chances que la vie ailleurs soit meilleure que celle d'ici-bas. Et c'est là que le thème de l'espace prend son importance. C'est une espérance, car dans ce pays, si tu nais noir, t'es mal barré, vraiment mal barré. C'est un autre taxi qui file vers l'aéroport de Détroit. Je suis affalé sur la banquette arrière, je lis les macarons des disques qui remplissent mes sacs. Les mots futurs, warfare, fugitive, planet, mystic et riot se détachent. Dehors, toujours le même paysage sinistré. Mais la vraie banqueroute de Détroit, personne ne l'évoque jamais en Europe. Détroit est un dramatique échec culturel. Ici, on efface jusqu'au souvenir de ce qui a été. Les théâtres à l'italienne, vestiges des 50s dorés, ont été transformés en parking. Les salles de concert ont subi le même sort. Il faut aller se réfugier dans l'église baptiste de Greektown pour trouver la seule librairie de downtown. Et de musique, il n'est plus question ici. À mon retour, on me rabâchera les oreilles avec les idées reçues qu'il est de bon ton en Europe de véhiculer sur Détroit. J'entendrai articuler une nouvelle fois toutes sortes d'aberrations et de clichés sur sa prétendue scène techno. Fuck that shit. Il n'y a plus rien à Détroit qui ressemble de près ou de loin à une scène. Pour qu'il y ait une scène, il faut qu'il y ait une vie nocturne et des structures, des clubs, un réseau. Une envie qui se propage, qui trouve une résonance. Mais ici, tout est comme blessé. Avant mon arrivée, je fantasmais cette ville, je l'imaginais brutale. C'est précisément ce qu'elle est. Une vision désespérée et malgré tout excitante du futur. Mais je me disais que cette violence devait être tellement inacceptable que le lien entre les acteurs de la techno de Détroit devait s'en trouver renforcé. J'avais tort. Je les imaginais tous portés par un même idéal. Et j'ai été déçu de voir que certains d'entre eux ne désiraient que monnayer l'étiquette Detroit en Europe. Ce premier voyage à Détroit n'a pas changé ma vie. Je n'ai pas plus aimé sa musique après être allé respirer l'air de cette ville. Ce que j'ai compris, c'est la nécessité qu'il y a à mettre son cœur dans la musique. Si la techno de Détroit me bouleverse, c'est parce que ses auteurs se mettent à poil dans leurs disques, qu'ils y livrent leurs peines, leurs rancœurs, leurs blessures et leurs espoirs. Les mots de Derrick May me revenaient en mémoire. « You don't make a record for fun, man ». Si la musique de Chicago avait toujours parlé à mes hanches, celle de Détroit s'adressait directement à mon cœur. Elle m'avait fait pleurer. Elle m'avait transmis des émotions d'une incroyable intensité. Des disques comme World to World ou Strings of Life constituent la bande originale de ma vie. Je les écoute pour la millième fois et je sens encore mes poils se hérisser. Cette richesse ne s'achète pas. Elle s'appelle sincérité.
This is Drexian Cruiser Control, Bubble 1, to Lardozian Cruiser 8-203X. Please decrease your speed to 1.788.4 kilobytes. Lardozian Cruiser 8-203X, please use extra caution as you pass the Arco construction site on the side of the Arcobahn. I repeat, proceed with caution.
you to watch me.
Chat Noir Productions vous a présenté Electrochoc.
Retrouvez l'émission sur le forum, le chat noir, le chat noir point forum actif point com et deux fois par mois le mercredi soir sur Radio Campus Bordeaux 88.1
vous a présenté Electrochoc.